Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Comme d'habitude, jusqu'à minuit en direct, bien sûr. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez sur RMC Sport News. C'est l'after après cette soirée d'Europa League. Un bon vieux jeudi d'Europa League, quoi. C'est-à-dire qu'on a trois matchs et c'est plutôt négatif, puisqu'on a deux défaites et une victoire. Je rappelle les résultats. L'OM a perdu dans un vélodrome vide ce soir, puisque le match est joué à huis clos, 2-1. Rennes a gagné pour la première fois en 14 matchs de phase de poule d'Europa League face à Jablonec, 2-1. Et donc, il y a quelques minutes, Bordeaux a perdu à Prague face au Slavia 1-0. Ils sont là dans l'after. Jérôme Rotten, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et Daniel Riolo, bonsoir Daniel.
Salut les amis.
Les gars, on va démarrer par Bordeaux dans quelques instants, mais je vais quand même vous donner quelques-uns des autres scores importants de cette soirée, parce qu'il y a des gros clubs cette année en Europa League, notamment le Milan AC qui jouait chez ce petit club luxembourgeois de Dudelange. Vous savez, club surprise. Et ils ont galéré quand même les Milanais, mais ils ont gagné 1-0. Voilà, donc le strict minimum pour eux. Je signale qu'actuellement il y a le temps additionnel entre Olympiakos et le Betis Séville 0-0. Le Sporting Portugal est en train de battre Karabag 2-0. Arsenal a battu Vorskla Poltava, un club ukrainien 4-2. Les gros clubs sont là. Fenerbahçe va pas fort par contre. Fenerbahçe qui est mené actuellement face au Dynamo Zagreb 4-1. Dans le groupe de Bordeaux, Copenhague Zenit 1 partout. Et puis il y avait le Red Bull ICO ce soir entre Leipzig et Salzbourg. C'est Salzbourg qui a gagné 3-2
dans le match. Résultat, ils se sont dit on se fait ça tranquille.
En tout cas, s'ils l'ont arrangé avant, ils l'ont bien arrangé, puisque Salzbourg a marqué le but de la victoire à la 89e.
Parce que toi, si t'arranges quelque chose, tu fais pas comme ça. C'est plus classe de le faire comme ça, je trouve.
Ouais.
Bah imagine, t'as une équipe, j'ai une équipe, on arrange un match. Je suis sûr que le score qu'on fait, c'est 3-2.
Ouais, d'accord. Oui, tu fais. Hein
la dernière fois que vous avez fait un match l'un contre l'autre, c'était le match de l'after. Alors,
mais pour arranger,
il y a eu 4-2.
Pourquoi tu fais
Benoît Costil en direct. On y va. Après, s'il vous plaît.
Je dis pas qu'ils vont arranger.
Justement, parce qu'il y a un petit peu une spirale négative aussi en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce que vous a dit aussi Eric Bédoué et Ricardo?
La spirale négative. Ça dépend comment vous voyez les choses. Les optimistes, ils vont se dire qu'elle est passée négative, parce qu'avant ça, il y a eu des matchs entre deux de Coupe d'Europe qui sont très très bien passés. Et les pessimistes vont dire que la spirale est négative, parce qu'en championnat, on n'a pas le nombre de points escomptés. Maintenant, voilà, on est en début de saison. On est conscient qu'il nous manque des points, qu'on doit faire mieux. On a fait de très bonnes choses aussi, mais voilà, faut qu'on arrive à être beaucoup plus régulier dans nos performances, avoir un niveau moyen de performance au-dessus. Pour pouvoir prétendre à faire des choses intéressantes et surtout jouer sur les deux tableaux.
Une réaction aussi dès dimanche avec un match très important en championnat face à Guingamp, un match forcément de bas de tableau et réaction attendue pour vous, très important.
Ouais, bah forcément, je dirais que faut aller à Guingamp pour gagner. Le problème, il est que Guingamp va jouer pour gagner également. Donc, on va d'abord bien récupérer et se projeter bien évidemment très très vite sur ce match qui est déjà important si tôt dans la saison.
Merci beaucoup Benoît, merci.
Voilà Benoît Costil avec Flora Moussi. Alors il dit Benoît Costil, il y a les pessimistes qui vont dire que c'est pas bien, puis il y a les optimistes qui vont dire que quand même en championnat ces derniers temps on n'était pas si mal.
Non, il a pas dit non. Ça. Il a dit que les matchs d'avant dans les tours préliminaires de Coupe d'Europe qui leur ont permis d'arriver là où ils sont aujourd'hui étaient positifs. C'est ça qu'il a dit. Pas enfin, en championnat, ce serait assez difficile de trouver
les gens. Ils ont battu Monaco récemment. Alors après contre Nîmes, ça a été plus compliqué.
Mais ils ont battu que Monaco.
Non mais t'as vu leur position au classement, ils sont avant-dernier ou dernier. C'est difficile d'être. Alors après, moi je veux bien que Benoît Costil il dise qu'il peut y avoir des optimistes. On va pas en trouver des masses à Bordeaux. Maintenant, il peut effectivement se raccrocher au fait qu'on est simplement en début de saison et que l'équipe peut s'améliorer. De toute façon, pire, ça va être difficile. Est-ce que là, aujourd'hui, le problème, c'est que entre la phase dont il a parlé, qui était bonne, et aujourd'hui, il y a eu des événements assez lourds. Changement d'entraîneur, changement dans la direction du club, pas encore officiel, mais on ne sait pas réellement où le club en est aujourd'hui. Ils ont retrouvé un entraîneur. forcément les méthodes ont changé.
Oui, enfin ils ont retrouvé un entraîneur qui peut pas se lever du banc et donc tu sais pas trop parce que c'est quand même étrange ce qui se passe quand tu vois Bédoué qui donne les consignes et tout.
C'est pas bon, c'est la situation est pas bonne.
C'est vraiment
donc là quand elle disait Flora que la période était plutôt la spirale négative, elle avait raison. Costil, ce à quoi lui fait référence, c'était il y a déjà un mois. Là la période est pas bonne et surtout quand tu vois ce soir ce qu'ils font, moi je veux bien hein, Slavia Prague, mais encore une fois, moi chaque année, depuis des années, quand on est le jeudi soir, je dis c'est l'Europa League qui est un révélateur pour nous de la valeur de notre championnat, de ce qu'on vaut. Bah si tu fais un résumé de nos résultats dans cette compétition depuis des années maintenant, on n'est pas très fort. Hein.
On la gagne jamais. On va parfois en finale.
Ouais, non mais là, Daniel, mais la finale, t'es dur parce que
regarde l'indice UEFA.
Non mais
Jérôme, je suis pas dur du
non,
tout.
Non mais t'es dur sur là on s'en fout ce qui s'est passé avant. L'année dernière, il y a une équipe qui fait finale d'Europa League. Des plans là-dessus ces trois matchs-là qui sont différents aujourd'hui.
Je te parle. À un moment, tu peux pas ne réagir que sur de l'épiphénomène.
Mais
à un moment, t'as des bilans, t'as des années qui passent, t'as des jeudis qu'on connaît à l'appel. Alors quand Marseille fait une magnifique saison comme l'année dernière, on est là pour constater qu'ils font une très belle saison. Sauf que ce n'est pas régulier ce genre de choses. Et là, on redémarre une nouvelle campagne européenne avec Marseille, on va y venir, qui est déjà en difficulté dans un groupe compliqué. Avec Bordeaux, qui à mon avis sera pas.
Il y a le Zénith et Copenhague.
Va pas sortir du groupe.
Bordeaux va avoir du mal.
Mais après, Bordeaux va avoir du mal. Le résultat de Marseille va les obliger. À ne plus gâcher, à ne plus mettre de côté un match, alors que peut-être ils auraient aimé en vue du championnat, parce que c'est compliqué les matchs du jeudi soir à gérer. Bah là maintenant il va falloir qu'ils soient taquets tout le temps et qu'ils aillent sortir un gros résultat, soit à Francfort, soit à Rome. Il est pas simple. Même le déplacement à Limassol, ça va pas être une balade. Donc nos résultats, mais de toute façon il suffit de voir l'indice UEFA là où on en est par rapport aux Russes, par rapport même la Bundesliga qui est en faiblesse. Elle est encore devant nous. Elle est encore devant nous. Et nous, moi,
devant les Russes, Daniel.
Tu peux pas.
On est devant les Russes et les Portugais.
T'es pas méga devant. Il y a la petite progression. Les résultats de l'OM l'année dernière nous ont permis de passer devant ça. Mais l'année dernière, les Russes, ils te battent contre Lyon. Là, tu vas à Slavia Prague. Tu vas à Prague contre Slavia.
Non mais
tu te fais balader tout le match.
Daniel, on parle d'une équipe. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser que d'une année sur l'autre. Là, on parle d'une équipe qui à Bordeaux, elle est avant-dernière du championnat de France. Donc, elle a déjà des difficultés par rapport à plein de choses. On le voit dans le recrutement, l'entraîneur, les soucis, les problèmes à droite à gauche.
C'est bien ça la difficulté de nos clubs. C'est le manque de continuité.
Non mais
c'est dire que
je veux dire,
c'est un club qui, il termine bien au point de se qualifier en Europa League.
Mais comme tous les championnats.
Mais il termine bien ou il termine bien parce qu'il profite de la faiblesse des autres.
D'accord.
Ce club l'année dernière.
Je veux bien.
Bordeaux, ça travaille à l'envers depuis des années.
Non mais attends.
Depuis des années, ça travaille à l'envers. Là, toi, tu trouves ça normal qu'il se fasse balader à Prague contre le Slavia?
Franchement,
ouais.
Mais ils sont avant-dernier du championnat. Moi, je m'attendais une équipe qui domine son championnat. Alors, ce n'est que le championnat.
Donc, une équipe du championnat de France.
Attends,
qui a quatre fois plus de budget.
Mais
tu trouves ça normal?
Mais arrête avec ton budget. Le budget, c'est une chose.
C'est quoi les références quand on parle foot? Explique-moi.
Aujourd'hui,
c'est aussi la qualité des joueurs.
La qualité des joueurs, tu l'achètes avec quoi?
La dynamique du moment.
Comment tu construis un effectif?
Mais ça n'empêche.
Tu peux pas tout ramener au budget.
Mais ça n'empêche. Ça n'empêche.
Tu ramènes tout au budget, toi.
Mais attends.
Jean-Yves Popetrov, tu vas en finale de l'Europa League, c'est
bien
pas
sûr,
le budget.
Exactement, c'est pas
quand le Shakhtar va en finale d'une Coupe d'Europe, c'est pas le budget. C'est un élément parmi d'autres. Enfin, bon,
Prague a un effectif aujourd'hui. Alors certes,
c'est un élément parmi d'autres. Non mais attendez. Vous êtes sérieux là?
Non mais tu permets qu'ils te répondent déjà?
Non attends, moi je veux savoir parce que là je veux savoir.
Donc toi tu résumes le foot. Tu résumes le foot à la thune. C'est-à-dire, le classement final de tous les championnats, c'est toujours la thune. Donc, comme Montpellier est champion de France, ils ont le plus gros budget de France. C'est ce que tu dis, alors.
Bon, écoute, là, franchement, je n'arrive même plus à débattre tellement les absurdités sont, franchement, vous me coupez là. Je suis bouche bée. Toutes les enquêtes économiques ne cessent de montrer que tout est fait par rapport à ça, de plus en plus, que tous les résultats.
Mais c'est pas une vérité absolue, c'est ce qu'on te dit.
Mais on s'en fout de la vérité absolue.
Et Montpellier, champion de France.
Quand tu étudies les tendances.
Ils ont pas le plus gros budget de France. Mais tu me comprends ou tu me comprends pas?
Non, je te comprends pas. Ton raisonnement me surprend, je n'arrive même pas à articuler tellement c'est ouf.
Moi, écoute.
Quand tu, aujourd'hui, quand tu regardes les grosses tendances, Montpellier, Leicester, ce ne sont que des exceptions.
Mais je suis
les
tout
tendances
à fait pour
générales
dire c'est des
à 80%, c'est l'oseille qui fait les résultats. Parce que c'est ça qui te permet que toi, ensuite, tu puisses, dans une compétition, Shakhtar ou je ne sais quelle équipe t'es allé me chercher, font des résultats. Mais évidemment, ça n'est qu'à féliciter. En plus, Shakhtar, au moment où il gagne et tout, c'est pas un club pauvre. Et il développe une politique
c'est pas
de recrutement.
Plus riche non plus.
Il développe une politique de recrutement qui est excessivement intelligente. Ils font des choses que nous, on est incapables de faire dans nos clubs en France. Donc, venir me dire aujourd'hui que ce n'est pas les budgets et l'économie qui déterminent ta puissance sportive.
Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça.
Daniel,
je ne t'ai pas dit ça.
C'est l'élément majeur.
Je t'ai dit que ce n'est pas ton budget qui fait le résultat.
C'est l'élément majeur.
Je t'ai pas parlé de puissance économique.
C'est l'élément prépondérant.
Je t'ai dit que c'est pas forcément ton budget qui fait le résultat.
C'est l'élément prépondérant.
En te donnant des exemples précis.
C'est l'élément.
Maintenant, moi, je vais te dire.
Tes exemples sont des exceptions.
Très bien. Et ben, tu veux que je te dise, tant qu'il y aura des exceptions, j'aimerais le football. Voilà.
Évidemment, mais on est
Les tendances font
que c'est comme ça. Donc je reprends parce que moi je m'en fous. Ce que je veux savoir, c'est comment une équipe française peut ramer à ce point pour battre
Prague,
Jacobson,
Jablomec,
machin truc là, cet après-midi. Marseille-Francfort, ça c'est autre chose. Mais que le Slavia Prague. Et là, je te parle de jeu. Je te parle de jeu. Qu'il gagne un match, c'est possible. Qu'il te balade. Techniquement, tactiquement, c'est pas possible.
Ben c'est pas possible. Si, c'est possible contre une équipe qui est malade. C'est tout. Bordeaux est malade
au point de se faire balader.
Mais pourquoi? C'est l'avant-dernier du championnat de France aujourd'hui. Les Girondins de Bordeaux, ils ont pas une tête.
Quand je te dis c'est pas normal, ça veut dire que c'est un club qui est mal géré. Mal entraîné, mauvais au niveau du recrutement. Ça n'est pas possible.
Mais là-dessus, on est d'accord.
Ça n'est pas possible.
Toi,
essaye de comprendre le raisonnement. Ça n'est pas possible qu'avec autant
Bordeaux,
de moyens.
Mais sur Bordeaux, laisse-moi finir. T'as parlé trois quarts d'heure déjà. Donc, sur Bordeaux, t'as raison. Moi, je te suis sur Bordeaux. Il y a pas de problème. Sauf que Bordeaux, avant le coup, moi, je savais qu'après qu'ils allaient galérer.
Mais évidemment qu'ils allaient galérer.
De toute façon, personne s'attendait à ce que Bordeaux se balade à Prague. Et même, on a accepté même qu'ils perdent. Alors peut-être pas de cette façon-là, parce que là, c'est.
Ils ont vraiment rien montré.
Ils ont rien fait du tout. Et c'est là, et on reviendra dans les détails après. Mais après, tu englobes tout le monde. Rennes, excuse-moi. Tu englobes tous les clubs français parce qu'il y a des mauvais résultats.
Je
suis désolé.
Pas les clubs français. Marseille. Je dis qu'on passe. Je t'ai même dit Marseille contre Francfort. Bon,
Marseille a huit clos. Ils sont supérieurs à Francfort sur le match. Ils perdent ce match. Ça arrive. Mais ils vont le jouer 10 fois. Ils vont le gagner 9 fois.
Oui, ça.
Ok, d'accord. Et encore.
Ça, je te dis pas le contraire.
Encore plus à huit clos.
Je te dis pas le contraire.
Et Rennes, excuse-moi, mais bon, Rennes, comme tu dis, galère. Moi, je m'attendais pas à ce que Rennes gagne 6-0 ce match. C'est pas arrivé sur les matchs d'Europa League.
Ils peuvent être dans le jeu un peu plus à l'aise que de proposer trois attaquants qui n'arrivent pas à jouer.
Mais en première mi-temps, il faut une première mi-temps cohérente, Daniel. Ils prennent un but, ils doutent. Ils doutent parce que y a un manque d'expérience en Coupe d'Europe aussi, il faut le reconnaître, ces clubs-là qui découvrent. Mais Rennes est sur la bonne trajectoire. Tu verras que Rennes, à mon avis, vont sortir du groupe. Marseille a des grandes chances de sortir, même s'ils sont
malgré tout, tu les vois sortir.
Ouais, Rennes, je les vois sortir.
Rennes,
c'est cohérent. Marseille, c'est cohérent. Marseille, c'est solide quand même. Alors, il y a eu ce mauvais résultat aujourd'hui.
Aujourd'hui, ils ont vendangé quand même.
Dans les conditions où ils l'ont joué à huis clos, qui est un anti-football, mais ça, on reviendra dessus. Après, Bordeaux, moi, je le savais avant la compétition. Bordeaux, de toute façon, c'est déjà inespéré de sortir. Et là, je rejoins Costil quand il dit.
Globalement, on passe pas une bonne semaine.
Mais non,
globalement, on a vu des choses cette semaine qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on doit voir.
Jimmy Briand avec Eric Huet, s'il vous plaît.
C'est un exploit,
C'est pas le mal du
foot. Envoyez Jimmy Briand.
Ils avaient déjà marqué un but et ils l'ont bien gardé jusqu'au bout, donc forcément c'est une déception.
Comment vous expliquez ce manque d'agressivité, de détermination dans l'ensemble?
Je sais pas, on avait envie de bien faire et c'est vrai que entre ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, il y a eu une différence parce qu'on les a totalement laissés jouer en première mi-temps. Et on a vu en deuxième mi-temps que quand on était un petit peu plus agressif et on allait un petit peu plus les presser plus haut, et ben on arrivait à ressortir le ballon et à jouer un peu plus. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est le premier match de la poule. Il va falloir apprendre pour prendre des points pour espérer faire une bonne Europa League.
Jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était un Bordeaux à deux visages, beaucoup plus conquérant, souverain en Ligue Europa.
Ouais, c'est sûr, mais là on est rentré dans les poules, dans les choses vraiment sérieuses. C'était aussi un premier match pour l'adversaire à la maison. Et voilà, sur la première mi-temps, ils ont mérité de marquer leur but. Et puis après, nous, on n'a pas eu assez de ressources pour aller chercher cette égalisation.
Vous aviez demandé à vos coéquipiers de croquer dedans dans cette nouvelle compétition, cette phase de groupe, comme vous le dites, et ça n'a pas été fait.
Ouais, ça n'a pas été fait. Voilà, c'est le premier match. Il en reste 5 pour essayer de se qualifier. Donc voilà, on sait ce qu'il ne faudra pas refaire.
Avant le prochain match contre
Jimmy Briand, qui était interviewé donc il y a quelques instants en direct à Prague. Olivier est avec nous. Il est supporter des Girondins. Olivier, bonsoir. Bon, Olivier au 32-16.
Bonsoir l'after.
Salut Olivier. Bon,
est-ce
quel bilan tu fais, toi?
Est-ce que l'un d'entre vous aura une corde, s'il vous plaît?
Bon, Olivier, non, t'en es pas là, quand même.
Je compte me pendre ce soir, quand même, parce que là, vu ce que j'ai vu ce soir, c'est indigent techniquement, c'est lamentable. On va finir entre la 15e et 20e place en championnat, et on passe pas le tour en Coupe d'Europe. C'est impossible. Vu le niveau technique, la pauvreté, franchement, qu'on a affiché ce soir, on a plein de joueurs qui sont pas au niveau. Moi, je rejoins l'analyse de Daniel, sauf sur le budget, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un problème aujourd'hui au niveau de ce club, depuis l'intersaison, entre la vente à FGCP, etc. Il y a eu des décisions, mauvaises décisions qui ont été prises. Il y en a qui passent en plus, vraiment anodines, mais qui sont en fait révélatrices de ce qui se passe. Vous prenez Pablo, il s'est blessé la dernière fois. Ça peut arriver. Sauf qu'après, il y a quoi? Il y a plus de deux défenseurs sur trop. On a passé Bay 5 ans. Donc, on laisse les autres. Même à Jablonec, là, chez les Polonais, il le prendrait pas, celui-là. Donc, on a plus que des défenseurs sans trop pour jouer sur tous les tableaux, championnat, Coupe d'Europe. Franchement, il y a vraiment un gros problème dans ce club-là. Je veux dire, à un moment donné, il y a pas, la vente peut pas tout expliquer. C'est pas possible. Voilà. Maintenant, moi, je veux juste ajouter une chose. J'ai vécu un an à Prague. Donc Sparta et Slavia Prague, je connais, j'ai déjà été les voir dans leur petit stade là à Prague. C'est des équipes qui franchement ont vraiment un attrait, une envie, un engouement pour l'Europe beaucoup plus que les clubs français. Parce que c'est les clubs en plus qui dans leur championnat respectif, surtout dans le championnat tchèque, dominent vraiment ce championnat tchèque. Ils finissent toujours entre la troisième et quatrième place, première et quatrième place, pardon.
Ils ont fait deux l'année dernière.
Ouais, ils ont fait deux, tout à fait. Ils sont pas qualifiés. Je crois que, de toute façon, ils pouvaient pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Je crois pas. Ils étaient pas qualificatifs. Mais voilà. C'est des équipes qui vraiment, prennent la Coupe d'Europe. Et, ça n'a rien à voir avec
eux. Pour eux, la Coupe d'Europe, c'est un truc qu'ils jouent à fond. Ils se posent pas la question.
Ah oui, c'est un loisir. C'est un loisir.
Le Sparta, il y a une période, ils étaient tout le temps.
De toute façon, il y a que, Gilbert, je suis désolé, mais ça.
Je veux dire, il y a que les Français qui.
C'est pas nouveau. Non, pas du tout. Mais ça a toujours été dur pour toutes les équipes en Europe. Il n'y a pas que les Français qui galèrent contre ces équipes-là. Les pays de l'Est, même quand le nom brille moins et qu'on connaît moins, les équipes roumaines, les équipes... Non, mais je suis désolé. Mais aujourd'hui,
Il disait que Bordeaux était malade, mais même contre Sion, il y a deux ans, ils se sont fait sortir lamentablement. Ils étaient déjà malades.
L'année dernière, Vidéoton.
Vidéoton.
Tu passes les tours préliminaires, les mecs, ils se tapent le cul par terre, ils ont battu personne.
Mais là, vous me reprenez, c'est pas, je suis pas en train de dire que Bordeaux va bien, au contraire, avec ce que j'aurais mis pendant le match. Mais non, juste pour essayer de... Quand j'entends Daniel par exemple, il dit bon, c'est pas normal de se faire balader à Prague et tout. Ben tu peux te faire balader,
non,
parce que
tu peux pas techniquement. Il y a un truc.
Mais
c'est
tu
pas
peux
normal.
Parce que c'est des bons championnats. Ben. C'est des bons championnats qui
non,
sont.
Non mais attends, balader en fait.
Mais non, si c'est des bons championnats, il y aurait combien il y a de joueurs.
Mais on l'a vu avec Marseille, ils ont perdu tous leurs joueurs.
Il y a des joueurs tchèques qui se baladent dans les grands clubs européens.
Mais peu importe. On s'en fout. Mais tu parles des individualités. Mais des équipes en club. Mais le collectif, je suis désolé, tu peux avoir des jeunes joueurs que tu connais moins, ensemble ils sont plus forts.
Une fois que tu les mets individuellement, tu sais que te faire balader comme ça veut dire que t'as un problème dans ton propre club. Aujourd'hui, si t'es dans le cas d'un Bordeaux qui est dans une poule où, effectivement, comme tu dis, beaucoup d'équipes peuvent aller, je sais pas, l'année dernière, l'Inter a été grotesque un petit peu partout et s'est fait balader justement, je crois que c'était en République tchèque ou peut-être en Slovaquie, je sais pas, mais il y avait eu une élimination piteuse en poule. Mais tu crois que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'Inter était mais complètement à la rue dans le caniveau.
Oui, oui.
Et ils sont pas sortis de la poule. Moi, si ce soir, Bordeaux, je vois dans ce match, même à la limite, un peu de je prends le tour à la légère. Je perds le match, mais bon, je vois que j'en ai gardé sous le pied. Vu la nature du groupe, je me dis, bon, ils vont quand même s'en sortir et tout. Je crois que je suis un peu moins sévère. Sauf que là, ils vont à Prague, ils se font vraiment balader dans le jeu. Le reste du menu, pour eux, est pas franchement appétissant. C'est là que tu te dis, c'est comme la différence, les mecs qui disent, pourquoi tu t'es à ce point énervé sur le PSG l'autre soir? Évidemment, ils peuvent se reprendre, ils vont peut-être sortir de la poule, sans problème. Mais c'est révélateur de carences qui, année après année, se répètent et sont la preuve d'un travail qui est mal fait. En l'occurrence, le manque de caractère qu'on déplore tout le temps, le manque du 6, le manque du 3, tous ces trucs-là. Là, Bordeaux, c'est encore une fois une équipe qui, l'année dernière, Gilbert l'a dit, ils se font taper par Vidéoton, contre Sion, ça a été bobillé. Ça fait des années qu'ils ont des problèmes. Ils sont dans une vente de club, ils changent d'entraîneur. Voilà. Donc, au-delà de Slavia, ça veut dire que c'est un club, donc, où, d'abord, tu l'as dit toi-même, là, tu regardais, tu dis, mais qui est allé recruter ce mec-là,
mais
machin. Non,
mais c'est ce que je te dis, mais là, c'est lui de recrutement discours, à Bordeaux, hein.
Centre de formation, équipe A, les entraîneurs qui défilent, qui sont virés, qui reviennent, direction qui va passer un propriétaire à l'autre, et ça reste malgré tout. Et là, je reviens à mon histoire de l'oseille, un club qui doit être à, allez, on va, moi, je préfère tout enlever à chaque fois qu'on parle de budget, quand je parle Europa League, comme ça, ça calme les gens qui à chaque fois me reprennent. 50 millions, c'est beaucoup plus, mais j'arrête à 50. Tu dois pas pouvoir proposer ça.
Mais,
ça doit être plus cohérent. Mais non, mais pas que sur le terrain.
On fait tous le même constat.
On fait le même constat.
Ça doit être plus cohérent, Daniel, en fait. Dans ce qu'est le club. Et le club en ce moment.
Non, moi là-dessus.
Tu te demandes qui croque l'oseille, en fait.
Non, mais.
Tu te demandes qui est-ce qui croque.
Mais t'as pas.
C'est quoi? C'est.
Il y a des mecs qui sont des salaires de malade. Mais t'as pas compris ce que je voulais dire. Moi, je te reprenais sur le mal du foot français. Souvent, tu mets ça en avant.
Parce que non,
tu mélanges tous les résultats.
Depuis 10, 15, 20 ans.
Non, mais là, on va refaire le foot français ce soir. Restons sur les résultats de ce soir.
Nos résultats sont pas mauvais.
Je remercie Olivier au 32-16.
C'est une blague ou quoi?
Mais il y a des épopées ces dernières années, quoi.
Je remercie Olivier au 32-16. Et j'accueille Claude, s'il vous plaît. Et tu mets en face les adversaires. Salut Claude.
Salut les gars.
Salut les gars. Jérôme, là, tu es là en fait.
Salut Daniel.
Tu n'as pas tant de parce que tu nies la réalité en fait.
Ton micro est coupé, hein, je te le signale. Donc ça va rien de t'énerver.
Claude, bonsoir. Je parle à Jérôme.
Non, il n'est pas coupé.
Salut les gars, salut Daniel, salut Jérôme, salut Gilbert.
Claude, tu fais le même constat qu'Olivier là qui était avec nous il y a deux minutes.
Alors, enfin, je sais pas, j'ai pas trop écouté Olivier, mon supporter Girondin.
Ouais, il était
alors,
très énervé, très... il voulait une corde.
Ah ouais, non, mais je suis très, 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 très inquiet. C'est même pas de l'inquiétude, là, je suis très, très, très déçu. Dans le sens où, enfin, on travaille pas. Daniel parlait de la cellule de recrutement du club, en fait. Comment fonctionne le club. Enfin, c'est juste pas possible d'aligner un tel milieu de terrain. Il y a deux semaines, je crois qu'il y a trois semaines, Daniel parlait de l'importance du poste de milieu de terrain dans le football. En parlant du PSG, de plus gros club quand même, de Ligue des Champions.
Là, je t'assure que je n'ai rien inventé. Ça me semble être une base que certains oublient. Mais
quand t'alignes Yaro au milieu de terrain, moi, je me pose des questions. Ah, mais moi, je me pose des questions. Moi, je l'adore. Hein. Mais il ne met plus un pied devant l'autre. C'est plus possible. C'est pas possible d'aligner Yaro dans un match de Ligue Europa. Et enfin, les mecs, il n'y a aucune motivation sur le terrain. Enfin, je suis désolé. C'est quand même un match de Coupe d'Europe. On n'a pas non plus... Enfin, cette année, ça va être une année compliquée, une année de transition où on va être racheté, enfin, on est racheté actuellement.
Quoi, tu penses que Bordeaux va jouer le maintien toute la saison?
Peut-être pas le maintien, mais en tout cas, déjà, la Ligue Europa, moi, je peux dire au revoir, déjà. Enfin, là, ça va être très compliqué, mais on va passer une saison de misère et de galère, comme on adore dire à Bordeaux. Ça va être une saison de misère et de galère. Quand notre meilleur joueur, c'est Camano, enfin, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est très compliqué de jouer comme ça.
Non mais tu peux, franchement moi je te rejoins sur le fait de Camano, Kalou, Camano il a beaucoup parlé hein, il a montré des choses.
Je pense que le meilleur joueur c'est celui que c'est plus Kalou que Camano mais bon.
Ouais,
Oui mais sur le début de la saison c'est quand même Camano.
Camano a beaucoup parlé. Maintenant le problème c'est que cette équipe elle est alors moi je te rejoins mais on le dit depuis bon nombre de semaines que le milieu de terrain c'est pas possible à ce niveau-là mais même en Ligue 1 et c'est pour ça
mais
que
même en Ligue 1, ouais.
Avec cet effectif là, ils vont avoir beaucoup de mal en Ligue 1. Tu vas voir le match de Guingamp dimanche qui est pas ils sont pas au mieux Guingamp, ils sont dans le doute et tout ça. Ils vont se faire rentrer dans le show. Il y aura certainement une réaction parce que ça peut pas être pire de ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Encore une fois, mais ce qui est grave, c'est que aujourd'hui, ils en faisaient presque un objectif parce que quand tu vois l'équipe qui a été mise en place, c'est quasiment l'équipe type à Bordeaux.
C'est presque l'équipe type. Oui.
Voilà. C'est ça qui est encore plus grave, c'est que les joueurs répondent pas, ils ont pas envie de se battre. Certains, bah, ils se voient plus beaux que d'autres. Et là, en l'occurrence, je mets Camano. Mais c'est pareil, à une autre échelle avec ce que le PSG nous a montré avec ses joueurs phares. Ce que je veux dire, au bout d'un moment, la Coupe d'Europe, il faut mettre un minimum d'investissement, un minimum d'agressivité. Tu peux perdre à Prague. Et moi, j'ai joué des matchs de Coupe d'Europe sur des équipes des pays de l'Est où tu connais pas forcément les joueurs, où tu te dis, bon, bah, c'est un championnat de seconde zone, donc tu vas y aller, mais tu te fais rentrer dans le chou. Et si t'es pas prêt à ça, bah, tu gagnes jamais dans ces clubs-là. Et que tu sois avec le PSG, Monaco, Bastia, Bordeaux et tout ça, c'est la même chose pour tout le monde. Bordeaux a déjà montré en termes d'agressivité au bout d'un quart d'heure qu'ils étaient pas là. Donc ils peuvent pas résister et ils peuvent pas espérer, ne serait-ce ne serait-ce que d'aller chercher 6 ou 7 points dans cette compétition. Donc bien sûr qu'ils vont pas la jouer. Et en plus de ça, ils vont galérer dans le championnat. Donc tout ça réuni, eh ben moi franchement, je suis comme les supporters, je suis très inquiet. Parce qu'il y a eu un changement d'entraîneur, et le choc psychologique que tu peux avoir, parce que c'est le cas de tous les joueurs, où t'as envie de te serrer les coudes et de montrer un peu plus de choses, parce que le nouvel entraîneur, t'as envie de lui plaire, et t'as envie qu'il te fasse jouer. Mais le match de Nîmes, écoute, ils font 3-3, ils s'en sortent bien.
Ouais.
Et le match là, c'est catastrophique. Mais franchement,
allez, on va conclure sur Bordeaux incroyable. Avec quelques messages sur Direct Studio. On me dit par exemple que de soucis techniques à Bordeaux, c'est faible. Kevin qui me dit ça. Guéguet qui nous dit je sais pas si c'est le vrai Guéguet.
Gaëtan Hubert,
qui nous dit Bordeaux en jouant comme ça va se faire taper à Guingamp. Ça sent le but de Nolan Roux. Nous dit-il.
Ou Marcus Thuram.
Plus de talent.
C'est pas mal Marcus Thuram d'ailleurs. Bon. Voilà, en tout cas les supporters bordelais ce soir sont dépités. C'est vrai que être supporter de Bordeaux depuis 2-3 mois là, c'est compliqué hein. Entre les histoires de repreneurs.
Moi, je pense
Thierry Henry.
Je pense qu'être supporter de Bordeaux
la déception totale
c'est
quoi tout le temps.
C'est compliqué depuis des années. Depuis très longtemps.
Depuis le titre de champion quand même. Il y a quelques années maintenant.
Évidemment, voilà, tu l'as eu en 2009, tu l'as eu en 99, mais le problème, c'est que entre la fin des années 80 et leur première rétrogradation, ils ont eu à chaque fois beaucoup de trous. Et après, une belle aventure. Un trou, une belle aventure. Mais la belle aventure, si elle vient une fois tous les 10 ans, c'est compliqué quand même.
Il y a beaucoup de clubs français qui aimeraient être champion tous les 10 ans, tu me diras.
C'est compliqué,
mais je crois qu'il y aurait beaucoup de gens, beaucoup de supporters qui aimeraient juste que le club ressemble à quelque chose, qu'il ait une forme de continuité, dans les hommes qui y travaillent, dans le jeu que tu proposes, dans même les aventures que tu vis, à la limite, t'es pas champion tous les 10 ans, même t'es champion tous les 15 et tu gagnes deux coupes entre temps, bah tu prends et entre temps tu fais 4-5 dans ton championnat, tu vas en Europa League, t'es pas ridicule à te faire taper par les premiers venus. Bon voilà, ça peut aussi être ça.
La base de
constater que ton club marche à l'envers.
La base dans ces clubs-là, et je peux comprendre les supporters qui souffrent, même les amoureux du football. Moi, je suis un amoureux du football. Bordeaux, c'est un club qui me parle parce que je suis de cette génération où Bordeaux brillait et Bordeaux était tout en haut. Mais quand tu vois l'équipe aujourd'hui, tu peux me dire qu'il y a des manques, l'entraîneur, les investisseurs, le changement d'investisseur, ceci, cela, le manque dans le recrutement. Mais quand je vois l'équipe au départ et qu'on parle de manque d'investissement, oh, ces joueurs-là, c'est une aubaine pour eux de faire l'Europa League par rapport à leur saison dernière. Il faut reconnaître quand même, c'est tombé du ciel. C'est dû à des mauvais résultats de certains clubs et d'un seul coup, bam, Bordeaux est qualifié. Et tu vois l'investissement, ils passent par les tours préliminaires avec où ils ont eu quelques doutes quand même. La Gantoise, rappelle-toi du match aller où ça a été catastrophique, un peu à l'image de celui-là, sauf qu'ils font match nul, tombé. Et que là, t'as une équipe avec beaucoup de joueurs qui découvrent cette Europa League et que ces joueurs-là, ils sont pas capables au moins de crever sur le terrain, même de se faire bouger. Mais au moins tu montes des choses, et ben là, c'est très inquiétant. Vraiment, ils n'en prennent pas conscience.
Dans quelques instants, nous sommes de retour. On va parler de l'OM dans quelques instants. Je vous rappelle quelques-uns des résultats du soir, outre les clubs français. Les clubs français, vous le savez, Rennes, Bajablonec 2-1. L'OM perd face à Francfort 2-1. Et donc Bordeaux perd à Prague 2-1 face au Slavia. Il y a quelques résultats que je vous ai pas donnés, parce que parmi les beaux clubs là qui jouent, enfin les clubs, on va dire, les plus médiatiques, Chelsea a joué à Salonique tout à l'heure en début de soirée. Ils ont gagné 1-0 les Anglais. Vous signalez également que Séville a battu le Standard de Liège 5-1 aujourd'hui avec notamment un doublé de Ben Yedder et un doublé de Banega. Voilà, et puis quoi encore, Besiktas qui bat Sarpsborg, un club norvégien. Et la Lazio dans le groupe de Marseille qui bat l'Apollon Limassol 2-1 grâce à un but d'Immobile. Et voilà pour les principaux résultats. On se retrouve tout de suite avec l'OM au programme et de nombreuses réactions tout à l'heure à la fin du match.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, nous sommes là, messieurs, dames, avec Jérôme Bretel, avec Daniel Riolo. Tiens, j'ai une petite nouveauté pour vous dans l'after, les gars. On aurait pu l'utiliser dans le débat précédent. Désormais, quand vous allez vous crêper le chignon un peu fort, vous allez entendre ça.
Vous voulez un soin? Vous voulez un soin ou ça va aller?
Voilà. Donc quand Monsieur Lannoy, nouveau collaborateur d'RMC Sport,
Mais où est-ce qu'il est, monsieur Lannoy, là? On l'a jamais vu. Pourquoi il vient pas là?
Bah, il est en train de faire des soins, là.
Non, mais c'est bien.
Attends, monsieur Lannoy, qu'on a encensé, dans l'after, ouais. Père spirituel de... Alors, monsieur Lannoy a longtemps été mon chouchou chez des arbitres.
C'est vrai?
Ouais. Monsieur Lannoy, c'était mon chouchou arbitre. Parce que je trouvais qu'il était très bon. Et, son fils spirituel étant mon autre chouchou, monsieur Turpin. C'est qui ton chouchou arbitre, toi?
Ah, Turpin, c'est ton chouchou.
Ouais, c'est mon chouchou arbitre. Ouais. Ouais,
comme quoi, le chouchou de Jérôme, c'est monsieur Dorian. Ça date un peu.
Non,
mais...
en dehors de notre ami, évidemment, qui vient nous voir régulièrement.
En tout cas, c'est pas monsieur Varela, ça c'est sûr.
Non, moi, franchement.
C'est qui notre chouchou? C'est qui, tiens, chouchou arbitre?
Non, mais il a pas de chouchou, il défonce tous les arbitres tout le temps.
Pourquoi tu...
Ah si, je sais, monsieur Millot.
Non, mais Benoît.
Benoît, c'est notre,
il vient là, il vient souvent, mais. Je sais pas. Non, mais
il y a très bien l'arbitre à Strasbourg récemment d'ailleurs.
C'est je m'entendais bien avec pas mal d'arbitres.
Turpin, après. C'est le meilleur de nos arbitres.
Turpin,
c'est le meilleur.
Non, mais c'est le meilleur.
Je sais que t'avais un fait pour Monsieur Bonichon.
Je lui reprochais juste de
il y a un problème avec Monsieur Fraise.
Me parle pas de Fraise, s'il te plaît.
Bon, avance parce qu'il faut qu'on parle.
Monsieur
de
Chat.
On n'a pas le
Fraise.
Temps.
Un jour, il m'a fait un derby. Sedan 3, tu te souviens le fameux
c'était
derby?
C'était un derby, Sedan 3?
Bah oui.
Mais derby de quoi?
Bah c'était un derby.
Mais de quoi?
Bah écoute,
De quoi? Je veux dire de région, de quoi? De...
Tu me laisses finir.
C'est le derby 14-18 en fait, c'est rapport aux tranchées.
Mais 3 Sedan, un derby. En France, on invente des trucs.
Exactement, bah c'était
3 Sedan, un derby. Alors, ça, là, c'est... Là, ce que je croyais que c'était aussi à Concert 3, il faut savoir.
C'était pas loin, 3 et Sedan, alors voilà.
Ah, c'est pas loin, ouais.
Et donc, monsieur Fraise,
j'avais...
Regardé
combien, parce que pour
non, c'est pas loin, bah écoute, excuse-moi, on y allait.
Bon, bref.
Moins 200 ans,
et monsieur Fraise, arbitrait un jour ce derby-là et était catastrophique.
Ah, bon. Sedan.
Marseille. On y va, les gars. L'OM qui donc perd sur son terrain. 3. Alors, match à huis clos, évidemment compliqué. Et surtout, l'OM qui jouait contre une équipe qui était à 10, puisque l'OM marque d'entrée. Et derrière, se prend 2 buts. Alors, donc, à la fin, Francfort était
ouais,
à 10.
C'est un derby à 200 bornes. C'est aussi loin. En fait, ça pourrait être derby avec le PSG aussi, Sedan. Bon, pardon.
Marseille comme Bordeaux, même combat?
Non. Mais inquiétant aussi dans le déroulement de la phase de poule. Moi, je trouve que ce résultat tombe super mal. Bon, Marseille a fait une seconde période horrible. C'est incompréhensible. L'excuse du pas de public, du machin et tout, je pense que ça déstabilise autant les deux équipes. Certains nous ont refait le coup des décisions arbitrales aussi. Mais toujours est-il que sur la seconde période, la prestation, elle est médiocre, très médiocre.
Je te coupe parce que Garcia, qu'on va entendre, a longuement parlé des arbitres. Alors, est-ce qu'il va en parler là? C'est une réaction à chaud.
Garcia, quand il perd un match, c'est l'arbitre, de toute façon.
On peut presque s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on menait 1-0, on a marqué vite. Je dis presque parce qu'il y a au moins 2 pénaltys pour nous quand même et c'est quand même assez surprenant de voir qu'aujourd'hui tous les championnats sont, les grands championnats sont, ont la vidéo, l'assistance à la vidéo et qu'on arrive en Coupe d'Europe, que ce soit en Champions League ou en Europa League et qu'on continue avec ces arbitres de surface qui servent à rien. On l'a vu ce soir, voilà, bon c'est comme ça mais c'est pas ce qui nous a fait perdre, parce que quand on sait pas gagner, faut au moins ne savoir pas perdre. Et on perd un ballon préjudiciable alors qu'on est à 11 contre 10. Et du coup, ben, il va falloir vite s'employer pour gagner des matchs, le prochain à Limassol. Et puis il faudra certainement aussi gagner, des matchs à l'extérieur pour pouvoir se qualifier à cause de cette défaite.
Voilà, donc il fait déjà ses petits calculs. On va pas rentrer dans son débat.
Non, le délire des arbitres, moi je m'en fous, mais c'est vrai que déjà il faut qu'il se pose la question, et qui trouve la raison à cette seconde période. D'un coup, ils ont éteint la lumière. À Marseille, il n'y avait plus rien. C'était un niveau affligeant. Et ça s'est terminé. En plus, ils ont joué une grosse partie de cette seconde période en 11 contre 10. Et ça se termine. Alors, avec ce but, là. Mais il veut faire quoi, le mec?
Radonjić.
Qu'est-ce qu'il fout là, si bas?
Il fait une énorme connerie.
Qu'est-ce qu'il fait dans sa relance? Qu'est-ce que c'est que cette cagade?
Surtout qu'il a 2 joueurs à côté de lui.
Incompréhensible.
Il peut pas jouer, avec les joueurs à côté, mais il tente une passe.
Non, mais tu peux faire une passe à 2-3 mètres. Il y avait le monde pour faire une passe à 2-3 mètres pour repartir.
Il tente, non, mais tu fais pas une passe à 2-3 mètres, dans les 5-50, Gilbert.
Mais non,
il faut jouer long.
On revoit l'action. Il peut avancer et il a des possibilités.
Comment il peut avancer? Il est face au...
Là, t'as pas l'image en tête. Je te garantis.
Je l'ai regardé.
Bon, après, on est d'accord.
s'adapter.
Il a fait n'importe quoi.
De toute façon, il a fait n'importe quoi. Il tente une passe qui est très compliquée, il se rate. Et puis derrière, il y a ce but marqué. C'est ça qui est terrible pour les Marseillais, parce que ils ont quand même des situations.
Enfin,
même
si ça avait été un partout, t'as quand même des regrets. Non. Les mecs en face sont à 10. T'as des occasions.
T'as des regrets. Un, parce que je pense que t'es meilleur qu'eux. T'as des occasions. Germain, face à face, Thauvin. Je pense que ça plie le match. Derrière, le fait que ce soit un match ennuyeux, sans public, machin, tu l'oublies. Parce que dans ces histoires de poules comme ça, et on l'a vu l'année dernière avec l'OM.
20 tirs marseillais contre 9 tirs allemands.
Et c'est arrivé à d'autres. Dans ces phases de poules, moi qui souvent aime bien quand on fait des bons matchs et tout ça, très franchement, je suis pas complètement con. Je comprends que l'accumulation sur tous ces matchs du jeudi, tu rejoues le dimanche et tout, que tu ailles à l'essentiel et que parfois... tu ne regardes pas réellement à la manière. Je suis pas non plus totalement dogmatique, je m'en fous. Mais tu dois faire le résultat. Et là, l'OM, non seulement ils font pas le résultat, même le nul à la limite. On aurait pris, mais là, la défaite. Le souci, c'est qu'elle les met dans la merde rapport à la façon dont le groupe évolue. Et ça va les obliger à faire un gros résultat à l'extérieur, soit à Rome, soit à Francfort. Si en même temps t'as les matchs de championnat où faut pas que tu perdes du terrain, enfin moi je trouve que ça va les emmerder dans le déroulement des semaines à venir, malheureusement. Non. Alors que ce soir ils ont tout pour gagner le match, ils sont à 11 contre 10, même s'ils font nul à Limassol en faisant un match pourri, t'oublies la critique, tu dis ok c'est bon, t'as pris ton point, t'avais pris tes 3 points, ça devient un peu de l'épicerie les poules d'Europa League souvent, tu vois. Et là, l'épicerie, elle a été dévalisée. Non, mais ce soir,
sans aucun doute, là, je te rejoins sur le calcul que les entraîneurs y mettent en place.
T'es obligé dans ces phases de poule d'Europa League. Souvent, tu fais de la compta.
L'année dernière, ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. C'est pour ça
qu'ils perdent tous leurs matchs à l'extérieur, mais ils gagnent tout à domicile. Donc, c'est ce qui les a sauvés pour se qualifier. Là, ça les met en effet en difficulté. Le fait de
là, Limassol, tu fais un match nul là-bas. T'es vraiment pas bien. Et Limassol, c'est eux qui avaient emmerdé Lyon il y a 2 ans, non, c'est ça?
C'était Apollon Limassol?
C'est pas Apollon Limassol contre Lyon il y a 2 ans?
Non, c'était l'Apoel. C'est l'Apoel Nicosie qui les élimine.
Non, Apoel
Nicosie. Non, mais Limassol.
Lyon,
non, c'était Paris qui était avec Limassol, non?
Non, de toute façon, Apollon Limassol, Lyon.
De toute façon, ça sera pas simple là-bas, parce que ça rejoint ce que je te disais là-bas tout à l'heure sur des pays.
Ah, Lyon, il était nul là-bas.
Qu'on a du mal à estimer un petit peu, tu vois, à valoriser. Donc là, ils vont se faire rentrer dans le chou là-bas. Ils le savent, ils sont courants. Ils ont un match important. C'est pour ça que Rudy Garcia avait décidé de faire tourner certains joueurs pour les laisser bien prêts pour le derby, du moins les Olympiques, le match des Olympiques dimanche soir. Après, ils se mettent en difficulté, ça peut arriver, tu perds un match. C'est surtout le scénario qui est terrible, parce que à l'arrivée, ils doivent le gagner, ils ont des occasions pour mettre ce deuxième but. Et même à un partout, ils ont encore des occasions. On a vu les manques, mine de rien, encore une fois, de Valère Germain, il fait beaucoup d'efforts, mais
et
il
tu perds
des occasions.
On en a pas parlé par
il est
ailleurs,
pas tueur.
Normalement,
tu perds Rami.
Il est très incertain pour dimanche.
Mais c'est sûr,
hein.
Rami, ça commence à être relou. Parce que Rami, depuis le début de la saison, il est pas là, il se blesse là, ça veut dire qu'il y a un problème dans sa préparation.
Ou c'est chiant,
je voudrais pas qu'il vive une saison pourrie, mais là, c'est l'impression qu'il y a la retraite en équipe de France, il y a eu une sorte de boom de notoriété aussi autour de lui après la Coupe du Monde. Il a fait une super saison l'année dernière. Là, j'ai l'impression qu'il a du mal un petit peu à...
Le problème, c'est que
il se passe beaucoup de choses autour de lui dans sa vie.
Non, mais
ici, hein, quand même.
Entre le fait que, qu'il est plus tout jeune, donc ton organisme, il récupère pas de la même façon, qu'il ait pas eu une...
Sauf que l'OM a besoin d'un bon Rami pour être bon, quand même.
Ben oui. Non, mais on
est
d'accord.
Parce qu'en charnière centrale, sinon, ça veut dire que tu vas, donc, toujours avoir Luis Gustavo, il faut que que Chalet Tachar, il soit bon. Ça t'oblige à repenser un peu les choses.
Là, Tchaleta Tsar, il a joué aujourd'hui. Il a pris ses repères, mais tu sens qu'il y a encore des manques. Mais il apprend. Hein, c'est un jeune joueur aussi.
On va être patient.
Est-ce que lui va être, à cause de la blessure de Rami, va être mis directement à Lyon, qui sort d'un exploit à City. Donc je pense que le parc OL, il va bien exciter les joueurs aussi. Donc là, ils vont se prendre des vagues. Il va falloir être solide. Si Rami joue pas, c'est un gros manque. Forcément, tu vas retrouver Luis Gustavo derrière, parce que il va falloir un joueur d'expérience, au moins un, donc il va manquer au milieu de terrain. Donc là, c'est sûr que là, tu te retrouves un petit peu coincé. Et en plus, ce mauvais résultat fait que tu te retrouves sous pression en championnat, parce que ces clubs-là, et comme tous les clubs très médiatisés, t'acceptes pas que, même si tu joues Lyon, t'acceptes pas qu'ils perdent deux fois de suite, parce que vite, tu rentres dans une période de crise. Donc voilà, y a, ça tombe mal, cette défaite. Mine de rien, je trouve que les joueurs ont bien réagi en conférence de presse. Ils ont fait les cons, ils le savent. On a entendu Thauvin au d'un moment. Garcia, même s'il se plaint de l'arbitre, il le dit, on doit savoir ne pas perdre aussi au d'un moment, même si on peut pas le gagner. Donc ils vont se remettre en question. C'est un groupe qui est soudé quand même. Donc moi, je pense qu'il y aura une réaction dès dimanche, même avec des absences.
Najet est avec nous. Supporter de l'OM, bien connu.
Salut Najet.
Bien connu.
Bah ouais, Najet, elle est partout. Non, moi je la vois partout, sur tous les sites marseillais et tout. C'est une resta.
Non, pas ce soir, par contre. Hein. Ah bon, le match, ça nous avait manqué, les jeudis noirs de la semaine.
Bah, toujours, en fait, ça nous avait manqué, ça, c'est quand même chiant.
On a
chiant,
eu quoi, hein. On a eu une semaine à 3 défaites de victoire. Pas de match nul cette semaine.
Oui, c'est ça.
On a eu 3 défaites de victoire.
Bon, tu dis quoi de Radonjić, là?
Je dis que c'est compliqué. Je dis que, franchement, là, ce soir, pour moi, enfin, c'est vraiment une faute professionnelle à ce niveau-là. Alors, je sais pas, pour tomber dans le catastrophisme, mais franchement... Il était vraiment bidon en face. Normalement, ce match, même si tu le gagnes pas, tu dois pas le perdre. Et en première mi-temps, tu dois mener au moins par deux buts. Mais là, je pense vraiment qu'il va falloir arrêter avec Germain devant. J'aime beaucoup ce garçon. Mais là, je trouve que Garcia lui fait un peu trop confiance. Et il est beaucoup trop en difficulté. Il est invisible.
Là, c'est à Monaco, quand il rentre, c'est lui qui vous met le but, hein.
Ouais, mais comment?
Ouais, mais j'oublie pas qu'il marque, exactement, mais.
Tu veux qu'il soit remplaçant, là? Maintenant, dorénavant, il faut que nous soit le titulaire. Ouais, mais sauf qu'en Europa League, il faut bien que tu fasses tourner.
Oui, ouais, mais au bout d'un moment, justement, t'as des occasions, faut pas les rater, comme ça, regarde le face à face qui manque. Là, c'est 2-0, c'est fini. Enfin, au bout d'un moment, voilà, là, on est en train de bricoler un peu de partout. Alors, c'est Europa League, il faut faire tourner. J'entends. Mais franchement, ce match, pas le perdre. Là, tu te compliques la vie. Alors, je dis pas que c'est fini. On sait comment ça se passe au niveau des poules. Et voilà, le chemin est encore long. Et tu peux encore te qualifier, c'est pas le problème. Mais même là, le problème en défense, moi, franchement, Gustavo, j'ai envie qu'il revienne au milieu et que ça s'arrête. Donc là, je pense qu'il va falloir rapidement revoir ta charnière. Donc, de toute façon, Rami qui est blessé. Donc, déjà, dès dimanche, il va falloir peut-être jouer. Moi, je verrai bien Camara avec Caleta-Char.
Ah, tu penses qu'il peut mettre deux jeunes comme ça?
Non, Gustavo moi, joue au milieu.
Il va le mettre, Gustavo, en défense. Mais moi, franchement, je pense que Gustavo, même en défense, il est toujours meilleur que les autres. Hein. Mais, pour moi, il faut qu'il retourne au milieu, ce joueur-là.
Ah, bah oui. Bah, ça, c'est sûr.
Ouais, mais il retournera pas dimanche, hein.
Oui, bah oui, forcément, dimanche, là, contre Lyon.
Bah ouais, match, dimanche, je trouve que c'est osé ce que tu veux faire pour jouer contre
Lyon. Non, je pense
que... T'enflammes un peu, là.
Peut-être après dimanche, peut-être. Non, mais au moins, moi, Camara, je veux le voir. Je pense qu'il faut lui faire confiance à ce jeune. Il a encore montré pas mal de belles choses ce soir. Et voilà, après, voilà, sur le match, tu perds bêtement 3 points. C'est pas une excuse.
Ce qui est problématique pour Garcia, parce que lui, il est dans l'optique à l'Europa League de faire tourner un petit peu son effectif, comme il l'a fait l'année dernière. Là, l'a fait avec 4-5 changements. Le problème, c'est ce qu'on disait, c'est que à Marseille,
c'est pas simple. Hein.
Ah non, ce groupe n'est pas simple. Hein. À Marseille, tu peux pas te dire bon bah écoute, c'est pas grave. Si on sort pas de ce groupe, c'est pas grave. Non.
Non, l'OM, si, tu peux pas. Si, voilà.
Donc là, il doit être là. La réflexion, c'est bon, bah, il va falloir aller récupérer les points à l'extérieur. Donc déjà, Limassol, tu peux pas passer à côté. Il faut prendre des points. Donc, je vais moins faire tourner à Limassol. Non, pourtant, j'avais décidé de faire tourner. Et là, à cause de ce résultat, le temps de jeu va se réduire de la part de certains joueurs. Et oui, en effet, moi, je pense comme Najet, mine de rien. Même si, au départ, tu te dis, il y a deux attaquants, il y a Mitroglou et Germain, je suis désolé, en cours de match, quand les équipes sont fatiguées, qu'il arrive à mettre son petit but comme il a fait à Monaco. Bah,
de toute façon, à la base, il doit être le remplaçant de la vedette.
Non mais d'accord,
mais en l'occurrence, c'était Mitroglou la vedette, la recrue.
Vous êtes vraiment très sympa avec Germain, je trouve. Hein. C'est pas pour lui taper dessus, mais franchement, Costa, s'il fait les matchs qu'il fait lui. Déjà, le fait de manquer un contrôle.
Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, à la base, la réflexion, c'était que Germain devait être le remplaçant de l'attaquant l'année dernière. Le fameux grand attaquant, il est arrivé, c'est Mitroglou a eu un mal fou
à rentrer dans sa saison. D'ailleurs, il est jamais rentré.
Là maintenant, dernière, bon, apparemment, c'est mieux.
Ça va être lui le titulaire et Germain va être le remplaçant.
Moi, je pense que ce soir, c'était un match pour un remplaçant. J'ai pas l'impression que dans la tête de Rudy Garcia, ce soit Mitroglou le titulaire.
Je pense que oui. Maintenant, c'est lui qui jouera dimanche.
Déjà, je pense qu'il va, il va commencer à changer un petit peu de système. Et je suis persuadé que Payet va retrouver un poste qu'il avait sur le côté gauche avant. Il va le redécaler.
Quand il l'a eu, quand l'OM a été bon, c'est pas avec Payet à gauche.
Non, mais attends, laisse-moi. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Quand il est arrivé, Payet jouait côté gauche. On est d'accord.
Quand la période revenu, où l'OM est pas
il
est revenu, bien.
Il est pas bien. Même lui, Payet, voilà. Mais aujourd'hui, Payet a retrouvé quand même.
Tu penses qu'ils vont repasser en 4-3-3?
Ouais, il l'a fait là dernièrement avec. Rappelle-toi la mi-temps du dernier
Payet,
match.
Donc devant Payet, Mitroglou, Thauvin.
Pour moi, Payet,
et au milieu,
Mitroglou,
Sanson et Thauvin.
Luis Gustavo, tu le fais remonter au milieu au bout d'un moment, hein, je te dis
ah
pas.
Mais quand maintenant si Rami est blessé, Rami revient pas en forme vite.
Rami il va pas être blessé 6 mois avec
Rami,
sa blessure.
Rami, je pense qu'il en a pour un bout de temps. Entre sa blessure et le fait qu'il soit pas bien physiquement.
Non, mais il va remettre
mentalement ça.
Et dans son esprit, c'était d'avoir Strootman, Luis Gustavo et Sanson. Mmh. Avec possibilité de mettre le petit Lopez là qui avait été bon sur la deuxième mi-temps
en
dernier match et de trouver si Germain ça peut pas aller quand Mitroglou peut pas jouer tous les matchs, et ben peut-être la solution c'est de mettre Ocampos là dans ce poste là. Lui Ocampos de toute façon il va faire les efforts. On le voit à travers son but encore, c'est un mec qui a la culture du but, du moins il a le sens du but. Après il a plein de déchets dans le jeu pour construire les actions. Je pense pas que ça soit le meilleur joueur sur un côté. Et dans ce système là, tu le mets libre devant, soit la réception des passes
en haut à gauche. Contre une grosse équipe, je vois pas comment ça peut coller.
Écoute, moi je.
Allez, faut qu'on avance.
Tu peux gagner des matchs de Ligue 1.
Je remercie Najat. Najat, à bientôt.
Moi, je pense que c'est compliqué. C'est comme. Et pourtant, je trouve que Fekir est meilleur que Payet. C'est comme Fekir dans un 4-3-3 en haut à gauche. Pour moi, c'est pas possible.
Non, mais tu le laisses libre. Ce que je veux dire, tu peux pas le laisser tout. En plus, l'avantage d'avoir deux gauchers dans le milieu de terrain, Luis Gustavo et Strootman.
Forcément,
ils vont y aller. Et lui, va trouver cette liberté en rentrant dans l'axe. Ça sera une solution. Et je pense que Marseille sera bien meilleur dans ce système-là avec ces joueurs-là. Aujourd'hui.
Ouais. Les gars, juste une dernière image dans ce match qu'on vous montre sur RMC Sport News. On a trouvé un spectateur qui a bravé le huis clos. On vous la montre, comme diraient les grands commentateurs de football. Oh, quelle est belle cette image! Et en fait, c'est Jacques-Henri Hérault. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il était tout seul au milieu de la tribune. Il allait se mettre tout seul, pauvre président abandonné.
Donc ça t'a plu, ça.
Bah, c'est l'image du match, quoi.
Ouais,
il est tout seul, là.
Très bien.
La solitude du pouvoir.
Bon, sinon, il y a une équipe qui a gagné ce soir.
Exactement. Et on va en parler dans quelques instants. C'est le Stade Rennais avec le retour du fils maudit. Athem Ben Arfa, messieurs, dames, qui a marqué le but de la victoire. On en parle dans la fin dans quelques instants. 2-1 pour Rennes face à Jablonec. 2-1 pour Francfort à Marseille. Et 1-0 pour le Slavia Prague face à Bordeaux. Ce sont les résultats du soir des clubs français.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à midi, on est là. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, messieurs, dames. Rennes, maintenant au programme, en préambule, avant d'avoir vos avis, Daniel et Jérôme. Je vous propose d'écouter Sabri Lamouchi qui parle d'Athem Ben Arfa. Il est rentré ce soir, il a joué ses premières minutes avec Rennes et il a marqué le péno de la victoire. Sabri?
J'avais dit lors d'une première conférence de presse que Athem Ben Arfa n'avait pas besoin de 90 minutes pour faire gagner son équipe. Il m'a donné raison dès son premier match. On ne pouvait pas imaginer un plus beau scénario, rentrer, faire les choses qu'il a pu faire après ne pas avoir joué depuis plus d'un an et demi et avoir le courage et le cran de tirer ce pénalty, de donner la victoire au Stade Rennais.
Voilà, alors juste...
Bon, c'est un tantinet exagéré et abusé.
Élogieux pour son joueur.
Parce que la joie des Rennais est légitime ce soir, c'est vachement bien tout. Enfin, Ben Arfa, il est rentré, franchement, il avait une charrette, quoi. Ça se voit.
Mais d'ailleurs, il est complètement cramé. Non, mais il avait dit qu'il s'était préparé avec un mec tout l'été, là.
Oui,
faut qu'il se fasse rembourser.
Ouais, là, il est pas prêt. Et après, bon, ok, il va tirer le péno. Mais enfin, bon, ça va, quoi. Tu sais, hein, il a fait gagner l'équipe en tirant un péno. Bon, c'est un peu démesuré, mais moi je suis très content qu'il ait joué. Il y a, en tout cas, Roazhon Park était en feu quand
première
il est rentré.
Première victoire en 14 matchs.
Il y a une
groupe,
sorte de joie innocente chez les Rennais qui fait plaisir à voir. sorte de naïveté, enfin, je sais pas, eux, en,
toi, t'as
en
croisé notre producteur Jérôme Thomas dans les couloirs.
Mais quoi. Non, mais en Europa League, tu sais, voilà, vu leur histoire, ils gagnaient pas un match en poule. Ce soir, même s'ils jouent contre, Jacques Loblack, là.
Jablonec.
Bon, ils gagnent.
C'est mépris pour les petits clubs européens.
Pas ouais. du tout, ils ont
bah si, tu l'as sous les yeux, dis-le bien.
Ouais, mais je l'ai pas sous les yeux, là. Je l'ai pas.
Bah, en tout cas, ils ont fait douter Rennes,
Jablonec.
Ouais. Ils gagnent, je trouve que c'est bien pour
après,
eux. Quoi.
Sur,
c'est un petit adversaire, mais c'est bien.
C'est vrai que Atem, de toute façon, il a besoin de temps de jeu. Déjà, on était surpris qu'il rentre
ouais,
pas.
Il va avoir besoin de pas mal de temps de jeu, s'il est quand même loin du compte.
Ouais, hein. Mais après, c'est normal. Quand tu connais le style de joueur que c'est, Atem, il a jamais eu un volume exceptionnel. C'est pas un joueur, c'est pas un milieu de terrain relayeur qui va t'enchaîner les courses. Il a jamais fait ça de sa vie. Donc il a pas un gros coffre par rapport à d'autres. Donc quand tu t'arrêtes, d'autant plus même si tu fais les entraînements et que t'es le plus sérieux possible. Et moi je crois.
Combien de temps il va lui falloir alors pour
non,
être
mais
rationnel.
Je crois si tu.
Il va être joker, tu penses?
Mais dans un premier temps, ouais, il est pas capable de jouer une heure de jeu aujourd'hui.
C'est sûr, c'est pas,
donc il va rentrer par rapport au scénario
janvier,
du match,
quoi.
20 minutes, 30 minutes. Non, mais tu sais, ça revient vite. Hein. Ça revient vite. Ne serait-ce que 20 minutes, 30 minutes. Là, tu vois, au bout de deux courses, il a avalé la trompette, l'orchestre, tout ce que tu veux. Il arrivait plus à respirer. Mais c'est normal. C'est des efforts que même à l'entraînement avec un préparateur physique de plot à plot, tu dis vas-y, va là en 15 secondes et tu reviens et tout. Mais au bout d'un moment, je veux dire, dans la tête, c'est pas ces efforts-là en match. Là, tu calcules pas. T'as un adversaire. Tu dois faire une course avec le ballon en plus. Lui, c'est quelqu'un qui doit percuter. Donc, il a besoin de se sentir un peu mieux, plus à l'aise dans ses courses et tout ça. Non, il faut pas s'attendre à ce qu'il
y a
fasse.
Il a aussi besoin d'être meilleur que les autres et ses
aussi,
concurrents
parce qu'on attend,
qui jouent en attaque.
On attend beaucoup, mais moi je reste persuadé que ça revient vite. Le fait, là où je suis pas trop d'accord avec toi, Daniel, même s'il abuse sur sa rentrée de Ben Arfa. De,
mais il félicite, mais
mais il prend franchement
pour ceux qui ont pas vu le match et qui entendent là, ils disent putain, à peine entré, il a mis le feu.
Exactement.
Ah, parce que moi je voulais absolument qu'on parle d'Ismaïla Sarr par ailleurs, qui a mis un but magnifique.
Ouais, mais bon, prendre ses responsabilités à la 90e minute, il vient d'arriver, il sait qu'il y a une énorme attente, que c'est le match qui peut te donner.
Le célèbre prendre ses responsabilités.
Eh ben ouais, mais ça parce que ouais, vous savez pas vous.
Non,
mais je peux te dire que t'as des coronets, elles sont grandes comme ça. Hein, quand tu tires un penalty, ne serait même arrête, même le premier match de poule
On l'avait vu en finale de la coupe en 2008.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah par contre, tu m'as jamais vu rater un penalty. Hein. Donc j'ai pris mes responsabilités sur pas mal de trucs. Mais donc lui, oui, il a pris. Parce que je peux te dire que quand tu regardes la tête de tous les autres aînés. Il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient le tirer, le pénalty. Heureusement qu'Atem, il était sur le terrain.
Moi, je vais prendre mes responsabilités. Je vais accueillir Benjamin au 32-16. Mm. Salut, Benjamin.
Messieurs, bonsoir.
Salut, Benjamin.
Ça va, Benjamin?
Écoutez, qui pensait que Rennes vous sauverait d'un jeudi noir à l'after?
Ah, ça, Benjamin, c'est bien vrai.
Il y a quelques années.
C'est bien vrai. Écoute, bah, ils n'étaient pas souvent le jeudi déjà à Rennes.
Oui, c'est ça.
Et quand ils ont été...
Écoute, j'ai préparé mes trois points si tu as 2 minutes à m'accorder.
Allez, vas-y, envoie.
Et je te les ai fait avec les initiales PPR en hommage à notre saint patron, Saint Pino. écoute, le premier P, c'est un peu ce que disait Daniel, le P de public, parce que tu vois, c'est rare une ambiance comme ça à Rennes. C'était vraiment, vraiment sympa.
Ah, et même l'échange avec les Tchèques, etc. À Rennes, c'est ça qui est formidable.
Ouais, exactement. Et à défaut d'aimer le foot, c'est un match qui donne envie d'aller au stade. Si tu veux plus pour l'ambiance, etc.
Ouais, bien sûr.
Le deuxième, c'est le P de progrès. Parce qu'il y a des progrès à faire dans l'équipe, au niveau individualité. Même le coach est en train d'apprendre. Ismaïla Sarr, tu disais un mot, il met un super but, mais sinon il n'est pas un pied devant l'autre ce soir. Mmh. Il y a plein de joueurs, voilà, on a plein de choses à apprendre en termes d'intensité, etc.
Et dis-moi, Benjamin, une question à te poser.
Vas-y, vas-y.
Sarr, plus beau but de l'histoire du Stade Rennais en Coupe d'Europe?
Ah, t'en as quand même quelques-uns qui sont pas vilains.
Il n'y a pas, plus beau but dans l'histoire de Rennes en Coupe d'Europe.
Ah, en Coupe d'Europe, alors si, écoute, si, tu vas te mettre devant un magnéto, tu vas aller regarder Rennes Atlético Madrid, qu'on avait fait un partout, et tu iras voir le but de Rennes à ce match-là.
Il n'est pas mieux que celui-là.
Ouais, non, mais là, on est en train de revenir sur
Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, il y a. En Coupe d'Europe, il y a. Il y a c'est pas un but, c'est Lloris contre la Juve, et en finale, Intertoto 99,
oui, aussi,
mais
là, frappe sur
le poteau.
Ouais.
Lloris.
Mais sinon, finir,
Sarr, plus beau but de l'histoire.
Benoît et Régis.
Hein?
Écoute. Non.
Les frères Lloris.
Bah oui.
Ah bon? À Rennes?
Régis Lloris et Benoît Lloris.
Bien sûr.
Et puis donc du coup, pour finir juste mon troisième point, après Pays de Progrès, je voulais donner le R de romantisme. Vous l'avez un peu évoqué avec Ben Arfa, qui a besoin d'histoire d'amour, qui a besoin d'aimer, qui a besoin d'être aimé. Là, c'était presque too much. Moi, ça me gênait un petit peu. Il a laissé chauffer. C'était limite le stade était debout parce qu'il courait autour du terrain. Donc moi, c'est un peu trop. La dernière fois qu'on avait vu ça à Rennes, c'était quand Wiltord était revenu lors d'un Rennes-Metz. Il rentre et c'était la folie, pareil. Là, Ben Arfa, oui, il a clairement été adopté. C'est même plus objectif. On est dans quelque chose qui est un peu irréel.
Vous êtes mais Rennes cette année.
Bah, écoute Benjamin, tes 3 points étaient brillants. Je te félicite.
Rennes cette année, Jimmy. c'est un peu la nana de vacances quoi.
Comme Jimmy Briand.
Mais attends,
mais il faut surtout que l'été se termine jamais.
Moi, je peux comprendre l'enflammade.
Des fois, il y a des gars, ils ramènent la nana des vacances à la maison.
Hein. Ah oui, mais alors en mois de novembre, quand elle a débronzé, tu dis merde, qu'est-ce que c'est fou là. Quoi.
Salut Benjamin.
Je peux quand même
comprendre l'enflammade sur Ben Arfa. Je suis désolé.
Aujourd'hui,
t'as vu les joueurs.
Tu sais qu'ils ne s'ennuient plus à Rennes. Vous avez vu la stat qui est passée. 57e match d'affilée sans 0-0.
Mais je te dis.
Pour Rennes. Il n'y a jamais de 0-0.
L'arrivée de Sabri Lamouchi. Ah, d'ailleurs, en parlant de Sabri Lamouchi, vous savez à quel point j'aime bien cet homme et souvent je le trouve très élégant. Je lance un appel, la cravate rouge.
Mais il n'y a pas le choix.
Je pense qu'il y a moyen de détourner ça.
Messieurs,
il y a moyen de détourner pour éviter la cravate rouge.
Il nous reste une minute trente.
Ah là, ça fait mec de chez
Daniel, Jérôme.
Sabri Lamouchi, toi qui es toujours très élégant, la cravate rouge, trouve le moyen d'éviter.
Ce soir, le retour des génies de l'after.
T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un QI d'au moins 160!
Attention, Jérôme Rotten a fait ses grands débuts en Ligue des Champions cette semaine sur RMC Sport 1. Forcément, il avait un peu la pression. Jérôme, ce soir, tu es dans les génies de l'after avec ça.
Il a préféré retirer du milieu pour laisser pour donner du temps de jeu à Gundogan, pardon.
On peut comprendre un peu de fatigue.
Mais j'ai pas compris la phrase.
Le problème, c'est que Jérôme a récidivé avec ça.
Pour passer le cap en Ligue des Champions, si tu veux au bout d'un moment espérer sur des matchs à élimination directe, parce que là on va pas tirer des plans, ils ont perdu un match sur la comète.
Mais j'ai une virgule.
Ils ont pas tiré des plans, on va pas tirer des
Alors,
plans.
Je t'explique.
Ils ont perdu un match sur la comète.
Non. Vous avez pas j'ai mis une virgule.
Alors
la virgule était peut-être mal placée. Mais
moi je dis bravo, un génie.
Donc
c'est
la comète.
Ouais.
Alors bravo, écoute, bon, c'est vrai que c'est des bananes. Ah, il y a encore ?
Non, c'est pas toi cette fois. Ouais. La plus belle, c'est quand même Nabil Fekir. Interviewé hier après le match par la télé norvégienne avec un anglais totalement magnifique.
Last question, tell us about that goal you scored today.
I don't understand.
The goal.
Yes.
Describe it. Description.
Yes, description. No. I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score.
C'est génial. Là,
c'est vachement simple et tout, mais c'est bien.
C'est génial. I recoup the ball, I score, I pass, I score. Voilà. Magnifique.
C'est ce que
Bravo Nabil.
Tout à l'heure, ils ont le.
Non, mais je trouve qu'il s'en sort. C'est marrant parce que je l'ai jamais vu sourire comme ça.
Ah ouais, il était
le sourire qu'il a au moment où le mec lui posait la question, j'aimerais bien qu'il sourie plus souvent comme ça.
C'est fini pour ce soir. Merci Jérôme, merci Daniel. Demain, l'after sera là dès la fin de la Ligue 1, car la Ligue 1 revient demain. Monaco Nîmes demain soir.
Monaco Nîmes.
Ouais, c'est ça, Monaco Nîmes demain soir.
Ils ont joué mardi soir et on joue demain Monaco.
C'est pas Monaco Nîmes demain soir? Jérôme, vérifie-moi ça tout de suite.
Ce serait bizarre de les faire jouer vendredi.
C'est quand même, on va pas partir sur
Si, à partir du moment où il y a 3 jours, c'est possible.
Sur une saucisse, mais il me semble que c'est Monaco Nîmes demain soir.
C'est un cadeau pour Monaco.
Il me fait douter ce check. Bah oui, c'est bien Monaco Nîmes demain soir. Voilà, bonne nuit, à demain.
C'est pas cadeau.